Simone, histoire d'une jeune fille moderne, de Victor Tissot. Première partie, chapitre 1er. Ça marche, enfoncez les poupées anglaises. Ce gamin de Bamberg est étonnant avec ses trucs. N'a-t-il pas imaginé de remplacer les yeux de verre, des yeux fixes, des yeux bêtes par des petites sphères, grosses comme des noisettes, qui pivotent sur elles-mêmes dès que l'on appuie sur un levier minuscule dissimulé sous le chignon. Une pression sur la nuque et hop, les yeux bleus s'enfoncent sous la paupière supérieure pendant qu'apparaissent des yeux noirs. Ce petit ingénieur est extraordinaire en machination. L'hiver prochain, je vais doubler ma vente. Ma petite Simone, qui est une habilleuse plus forte que Worth, chiffonnera du satin autour de mes princesses. Et allez donc ne pas acheter des bébés qui, vêtus comme des princes, ont des yeux de rechange. Et allez donc ne pas acheter. Dans la joie de son triomphe sur les fabricants de poupées anglaises, M. Gosselet, gesticulant, avec sa canne, faillit casser le bras à un amour en plâtre qui tirait des flèches tout en se tenant en équilibre sur un orteil. Ce qui est une bien mauvaise position pour un tireur, même pour un tireur d'arc. M. Gosselet, qui accouchait, bon an mal an, de 300 à 400 000 poupées, se sentait les reins assez robustes pour enfanter 1 million de bébés maintenant qu'il pouvait leur donner des yeux de rechange. Brusquement, il s'arrêta, se gratta le bout du nez, devint grave et se mit à palper tous les doigts de sa main gauche entre le pouce et l'index de sa main droite, comme pour s'assurer de la souplesse de ses articulations. En réalité, M. Gosselet se livrait à un calcul très compliqué et se servait de ses phalanges seulement, alors que d'autres emploient des tables de logarithmes. Il parlait haut, puis murmurait, puis poussait de petits grognements, quand l'opération se brouillait comme un quadrille dansé par des jeunes gens frais échappés du collège. 100 francs la douzaine, prix de revient, 1 000 francs la douzaine, prix de vente, je gagne. Le gain prévu par M. Gosselet était si considérable qu'il enjamba par distraction les petits arcs en bois qui bordaient l'allée sablée de jaune et fit 2 ou 3 enjambées dans le gazon. Or, le gazon de M. Gosselet était de ces gazons bourgeois que nul pied ne doit fouler. Gazon fait pour la joie de l'œil, comme les petits sapins que les enfants exhument des boîtes de jouets. Le marchand de poupées regagna vite l'allée, confus d'avoir été surpris en ce mauvais pas par tant seulement le jardinier. En effet, à 10 mètres de là, tant seulement, qui taillait au cordeau des buis de bordure, regardait son patron bouche bée. M. Gosselet lui faisait chausser des espadrilles 2 fois par an, pour la tondaison de la pelouse, prétextant que les sabots de bois du bonhomme creusaient des trous dans le sol, et voilà que le fabricant de poupées foulait l'herbe haute comme un poulain lâché. Tant seulement, on avait affublé Jean Patard de ce sobriquet, parce qu'il avait la manie de mettre beaucoup d'adverbes dans les phrases qu'il adressait aux bourgeois, pour cacher son ignorance, comme les mauvaises cuisinières prodiguent les oignons dans leurs plats pour dissimuler la fadeur de l'après. Tant seulement était stupéfait. M. Gosselet vint à lui, souriant. « Mon pauvre tant seulement, il faut que j'augmente tes gages. Tout pousse à souhait ici. Le gazon, je l'ai mesuré, me monte jusqu'aux genoux. Tes mosaïques de fleurs sont d'une couleur et d'un dessin merveilleux. As-tu débarbouillé au papier de verre les 2 Neptunes du bassin? Ma femme prétend que les teintes sales et les moisissures leur sied bien, mais je veux, moi, que mes statues soient blanches comme neige. » « Oui, monsieur. Mais je ne peux plus toucher à l'enfant nu qui lance des flèches. La fossette du menton s'en bat. Encore un tant seulement petit peu et il va devenir maigre. » « Bien, tu le frotteras moins fort, mon garçon. On a l'habitude de voir des enfants un peu mal mouchés, ça n'offusque personne. Soigne la toilette des grandes personnes, soigne les pieds surtout. C'est aux pieds, vois-tu, que l'on reconnaît les gens chics de ceux qui ne sont pas chics. Mais tu ne connais rien aux choses très compliquées du savoir-vivre, tant seulement. Ma femme est extraordinaire là-dessus. » C'est vrai de vrai. Et Mademoiselle Simone est quasiment plus forte que madame. Je vous remercie bien, monsieur, je vous remercie bien. Je n'avais pas été augmenté depuis 4 ans. Aujourd'hui, c'est-à-dire depuis la noyade du petit chien de madame. Je me souviens. Je suis content du gazon. Il est haut, épais. On pourra se rouler dessus comme le font les paysans. Il me monte à mi-jambe. Je l'ai mesuré. Aussi, j'augmente tes gages de 20 francs par an. Je remercie infiniment, monsieur. Courbé sur la bordure du buis, tant seulement se mit à la besogne, taillant les ramis à grands coups de sécateur, peu satisfait de son augmentation. et M. Gosselet se dirigea à petits pas vers son usine, se frottant les mains. Le fabricant de poupées, qui avait un nom honorablement connu sur la place de Paris, avait convaincu son jardinier qu'il n'avait mis le pied sur la pelouse que pour mesurer la hauteur du gazon. Un homme qui est dans les affaires n'a pas le droit d'être distrait. Le rival de M. Gosselet, le fabricant Tuffard, aurait fait, s'il l'avait su, des réflexions désobligeantes sur les écarts de pensée de M. Gosselet, et, dame, la fabrique de bébés aurait périclité. 20 francs donnés tous les ans à ce pauvre temps seulement, et la maison était sauvée. Le fabricant de poupées, tout réjoui par la découverte des yeux de rechange, se permit ce matin-là un petit extra de promenade dans le parc. Le parc de M. Gosselet, qui occupait entre la gare de Bel Air et la place de la Bastille 5 ou 6 hectares d'un terrain de banlieue, était un parc rectangulaire, entouré de murailles en briques rougies chaperonnées de larges dalles blanches. Il longeait la rue Michel-Bizot et la rue Claude-Decamp sur 2 faces, le chemin de fer et l'usine sur les 2 autres côtés. Malgré son nom prétentieux de parc, l'enclos du fabricant renfermait un petit potager que l'architecte avait malencontreusement dessiné le long de la voie ferrée. Tous les matins, tant seulement devait épousseter les escarbilles de charbon tombées sur ses salades. À part ce léger inconvénient, le parc de M. Gosselet avait fort bon air. Sur la grille, des bébés en or dansaient des farandoles ou se laissaient glisser au bas des barreaux en fer. Les grandes allées étaient couvertes d'un sable blond à peu près vierge de traces, parce que les propriétaires se promenaient de préférence dans les petits sentiers dits de service. Les arbres d'ornement étaient taillés en rond, en carré, en pain de sucre, en pyramide, en hexagone. Les arbres à fruits étaient crucifiés, comme tous les arbres à fruits qui se respectent. Des massifs de fusains entourés de centres en lacis formaient des labyrinthes inextricables pour des coccinelles. Des poissons qui n'étaient pas rouges nageaient dans des bassins servant de bains de pied à 12 douzaine de dieux aquatiques. Au milieu du parc s'élevait, dans un bouquet d'acacias plantés à la diable, une maison d'habitation d'une grande simplicité, percée de larges baies à 2 glaces. Un balcon de pierre ajourée faisait le tour du 2e étage. Des logettes en fer forgé encadraient toutes les fenêtres de l'étage supérieur. Un double escalier en granit conduisait au perron dallé de bleu du rez-de-chaussée, perron que ne protégeait pas une marquise en fer blanc. Ce chalet, à face irrégulière, n'était pas flanqué de tourelles comme de béquilles. Le toit en tuiles rouges n'était pas surchargé de girouettes, le pauvre. M. Gosselet avait dû se faire violence pour permettre la construction d'une maison si humble d'aspect au centre d'un parc si géométriquement beau. Le chalet communiquait avec l'usine par une allée de tilleuls longue de 200 pas, à l'éclose au mur d'enceinte par une porte en chêne ornée de têtes de clous grosses comme des soucoupes. Cette porte, avec ses croix en fer, ses gonds énormes, semblait avoir été construite pour protéger ce parc bourgeois contre les rébellions possibles du monstre ouvrier crachant des pierres et de la fumée. Cependant, elle n'avait point l'air terrible. Encadrée dans le verre de lilas en fleurs placé près de ses portants comme 2 brûle-parfums purifiant l'air en puantis d'odeur de résine et de houille. Dans l'allée de tilleul, toujours souriant, M. Gosselet lorgnait la grande cheminée de son usine se dressant par-dessus le mur. Il n'était plus qu'à 10 mètres de la porte enferraillée quand un gazouillis de voix féminine attira son attention. « J'ai de quoi faire un bouquet, Berthe. Encore 7 grosses branches et je descends. Si le père Gosselet m'attrapait, ma chère, pousse un peu, là, je suis assise sur le mur. » Le fabricant de poupées voulut surprendre les chipeuses de lilas, mais le gravier craquant sous son pied, il n'aperçut que 2 grands yeux noirs sous un casque blond. Il entendit « Lâche tout, Berthe, voici le père Gosselet !» Il cria « Boleuse, je saurais bien vous reconnaître à l'atelier !» Mais il ne songea pas à les poursuivre. Le temps d'ouvrir la porte solidement cadenassée, et les petites ouvrières seraient penchées sur leur établi, bien sages, coiffant les poupées ou vermillonnant avec un pinceau les lèvres exsangues en carton-pâte. Pas respectueuses, ces gamines. Il n'était pour elles que le père Gosselet. Brusquement, il revint sur ses pas, la canne levée comme pour châtier l'insolence de ses petites filles. « Tant seulement, monsieur. » « Je t'ai promis 20 francs d'augmentation, mon garçon. Ce n'est pas tout. » Tant seulement, surpris, laissa tomber son sécateur et sourit large. « Tant seulement. Mes ouvrières viennent bagnauder dans la cour sous toutes sortes de prétextes. Puis, elle grimpe sur le mur et casse des branches de lilas. Le lilas de ma fille. Ah, monsieur, c'est des parisiennes. Et les petites parisiennes, ça vous a déné de millionnaires, quasiment. Mais le lilas de mademoiselle, vrai, ce n'est pas pour leur museau. Aux heures de rentrée et de sortie des ateliers, tu te cacheras le long du mur. Tant seulement, tu seras armé d'une baguette et taperas sur les menottes qui s'accrocheront aux dalles. Tu ne taperas pas trop fort, mon garçon. Elle me ferait payer la casse. Connais-tu les polisseuses ? Oh, presque toutes, monsieur. Il y a Fricassé, la grande bobèche, la petite souris, Mouron pour les petits oiseaux, l'embaumé. Ça pourrait bien être l'embaumé qui vous vole vos fleurs, monsieur. Quand elle a une rose au corsage, elle n'a pas toujours de sous de petits noirs dans l'estomac. Il y a encore... Bien, cela suffit. C'est que je les connais bien, allez. Je les rencontre tous les soirs, vraisemblablement à la station des tramways. Ce qu'elle est fière, cette lambeaumée, malgré sa bosse. Pince les voleuses, tant seulement, et à chaque prise, tu toucheras une prime de 40 sous. Mais si je cogne sur les doigts immédiatement, je ne verrai pas les têtes, probablement. Prends le signalement et tape ensuite, mais pas trop fort. Bien, monsieur. Je connais le métier, je fais ça naturellement. Quel métier, mon garçon ? Pincer les maraudeurs. Ah, baste. Mais certainement. En été, monsieur me donne congé le dimanche. Je vais soigner les rosiers du maire de Viroflay. Drôlement taillés, les rosiers du maire. Ils poussent tous comme des chardons et allongent la tête par-dessus le mur de briques qui borde le chemin. Il passe là un tas de jeunesse avec des ombrelles rouges et des petits rires qui sonnent comme des cornets à piston, venus à la campagne pour manger des pissenlits tout crus cueillis dans le fossé. Elle voit les roses, passe les menottes par-dessus le mur et hop, les voilà prises. Je les maintiens par le poignet pendant que le garde champêtre dresse procès-verbal. Si elles sont accompagnées par des hommes, on leur fait payer une amende. Quand elles sont seules, on plaisante un brin et elles griffent le garde champêtre. Et que gagnes-tu à ce vilain métier, mon pauvre temps seulement ? 3 francs par jour. Mais je ne touche pas à l'argent des Parisiens. Les amendes sont pour les pauvres. Tiens, ton maire a une façon bien amusante de faire la charité. Oh, monsieur, je crois certainement que le maire partage l'argent avec le garde champêtre. C'est juste. Tu vas gagner de jolies pièces de 40 sous, mon garçon, puisque tu es déjà chassé aux maraudeurs. Sûrement, mais je n'ai pas le garde champêtre pour m'aider. Enfin, je vous dirai le nom des voleuses. Je pense que mademoiselle Lambeaumé a déjà son corsage tout plein fleuri de votre lilas. Rassuré sur la conservation de ses arbustes, M. Gosselet se dirigea vers son usine pour entretenir le petit Bamberg, le second ingénieur, sur un perfectionné apporté par lui, Gosselet, à l'invention des yeux de rechange. Le fabricant de poupées avait en effet imaginé de peindre sur les petites sphères déjà illustrées de prunelles noires et de prunelles bleues des yeux bruns et verts, ce qui lui avait permis de lancer des réclames sur le système oculaire inventé par l'ingénieux M. Gosselet. Assis devant son bureau, il parcourait les journaux qu'on lui avait adressés pour la justification des annonces. Certaines feuilles mondaines consacraient à la découverte du fabricant un article, dit scientifique, célébrant les mérites du patriotique inventeur qui, non content de donner la parole aux poupées françaises, les dotait de jolies prunelles à nuances changeant au gré des petites mamans. Cette découverte, continuait le journaliste, permettra aux petites filles de créer une mode de prunelles à l'usage des bébés en carton. Au printemps, les yeux verts seront de mise. L'été, on ne portera que des yeux bleus. À l'automne, les yeux bruns. À l'hiver, les yeux noirs. Cet article, à cheval sur la une et sur la deux, c'est-à-dire commencé en première page et terminé en deuxième, avait coûté près de 50 louis aux patriotes fabricants. Mais à l'incessante sonnerie du téléphone qui mettait l'usine en communication avec la maison de vente du faubourg Saint-Denis, M. Gosselet pouvait se rendre compte de l'effet produit par cette prose élogieuse sur les revendeurs de jouets parisiens. En entrant à l'usine, il avait fait mander le petit Bamberg pour hâter la fabrication de ses prunelles de 4 saisons. On frappa. « Entrez, Bamberg, entrez !» Bamberg, un petit jeune homme blond, aux yeux gris, parut, timide, rougissant presque. « Ça marche, hein, Bamberg. Quand pourrons-nous livrer nos nouvelles poupées ?»« Dans 15 jours, monsieur, dès que l'outillage sera complètement installé. Nous pourrons faire face alors à toutes les commandes. » Lisez donc l'article de Dupont dans le Cervantes. Il a oublié d'annoncer que l'invention était de vous, mon cher ami, mais peu importe, n'est-ce pas ? Qu'est-ce là pour vous? Une machinette. Vous inventerez des choses autrement merveilleuses. D'ailleurs, je vous en saurai gré, Bamberg, je vous en saurai gré. » Bamberg protesta de la main contre une augmentation possible de ses appointements, mais M. Gosselet se contenta de répéter, en hochant la tête avec obstination, « Parfaitement, je vous en saurai gré, mon petit Bamberg. » Bamberg rougit beaucoup, salua, et retourna à ses sphères à prunelles pendant que M. Gosselet consultait sa montre. 11 heures déjà. Juste le temps de passer une redingote. Dire que je ne peux pas déjeuner en veston chez moi. En poussant la lourde porte en ferraillée, M. Gosselet constata de nouvelles déprédations commises par mesdemoiselles les polisseuses. Pendant qu'il était à son bureau, les chipeuses avaient dépouillé de leurs fleurs tous les rameaux surplombant le mur d'enceinte. Il cria comme si elles pouvaient l'entendre. « Je les chasserai, les gueuses, je les chasserai !»« Elles n'ont pas la première notion du tien et du mien !» Des traces de pas qu'il aperçut sur le sable de l'allée longeant la muraille ne firent qu'augmenter sa mauvaise humeur. Les gueuses osaient-elles donc prendre leurs ébats dans son parc, et cela précisément dans l'allée que préférait sa femme? Il examina attentivement les empreintes dessinées sur le sol et put se convaincre que ses ouvrières étaient innocentes de ce nouveau méfait. Les traces n'étaient pas de la même grandeur et semblaient avoir été faites par des chaussures de sexe différents, des chaussures du meilleur monde. Les plus grandes cheminaient à côté des plus petites, celles-ci effleurant à peine le gravier, celles-là marquées nettement comme à l'emporte-pièce. Tous les 2 mètres, le sable piétiné témoignait que les chaussures avaient dû faire là un brin de Cosette. Brusquement, elles s'arrêtaient près d'un banc de pierre placé au-dessus du petit amour lançant des flèches. Elles avaient dû faire une longue halte en cet endroit. Le tuf était zébré d'écorchures mettant à nu la terre végétale. Cette étude d'empreintes, agréable pour un rêveur ou un poète, n'était pas pour satisfaire M. Gosselet. Il est là le jardinier. « Quand avez-vous ratissé cette allée, tant seulement ?»« Hier soir, monsieur, à la nuit tombée, mêmement. » »« Ma femme n'est pas venue se promener dans le parc ce matin ?»« Je n'ai pas vu, madame. » »« Avez-vous aperçu mademoiselle Simone ?»« Je ne l'ai pas vue pareillement. » »« Bien. » Tant seulement se retira, l'échine courbée comme il avait l'habitude de le faire toutes les fois que son maître ne le tutoyait pas. Assis sur un banc, au pied du petit amour qui lançait ses flèches, M. Gosselet se livra à une nouvelle étude des empreintes, étude douloureuse mais fructueuse, puisqu'il ne tarda pas à être convaincu que seule Mme Gosselet et sa fille portaient d'assez mignons souliers pour laisser sur le sable d'une allée de semblables traces.